Si c'est là, c'est ici.
Je ne vois aucune différence entre les Hutus et les Tutsis. Je ne suis ni l'un ni l'autre, ou je suis les deux à la fois. Sauf d'avoir appris dès sa jeune enfance qu'on est ceci ou cela. Et moi, je n'ai pas appris ça. Je refuse d'endosser l'un ou l'autre de ces chemises parce que je trouve qu'elles ne me vont pas.
Marie Goretti Mukakalisa, vivre en liberté.
Je me souviens quand j'ai couru en partant de ma maison à Kigali pour aller rejoindre le camp militaire le plus proche. C'était à travers des balles, hein. Des balles qui tiraient et en plein jour comme maintenant. Des choses que j'avais dû voir dans le cinéma mais que je ne savais pas que je vivrais moi un jour en réalité. Des gens avec des fusils qui tirent de partout et puis l'étonnement de courir et puis de me rendre compte, mais je cours encore, donc je suis encore en vie. Oui, je cours, je suis encore en vie. J'étais ça, cette chose qui courait avec un thermos, un bébé dans le dos, un enfant derrière, et qui essayait de se mettre à l'abri. C'était seulement ça que j'étais.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Marie Goretti Mukakalisa, une économiste rwandaise. Elle s'exile au Congo suite au génocide du Rwanda de 94. Mais lorsqu'elle y revient, quelques années plus tard, elle subit des menaces qui l'obligent à s'exiler à nouveau, vers la Belgique cette fois. Réfugiée politique, elle vit désormais à Niort, dans le sud-ouest de la France. Alliant la force et la douceur, elle nous livre ici sa vie, construite autour de crises et de ruptures, mais aussi autour de la recherche d'une paix avec elle-même.
J'ai commencé à vivre certaines différences. Quand tu sors de la cour de ta grand-mère et que tu vois des gens qui accourent avec du sang partout et puis que tu vois de la fumée tout près, j'ai vu les maisons brûler. Il y avait des jambes qui étaient coupées avec des machettes. Oui. J'étais triste. Ce qui m'a rendu triste, c'est qu'après, la vie n'a jamais continué comme avant. Ça venait comme un événement très mauvais. Il y avait une certaine animosité entre les gens. J'ai eu toute ma vie pour l'apprendre au quotidien. Ouais, j'ai vu des choses venir. Il y avait des morts de partout. Des gens qui étaient tués parce qu'ils appartenaient à tel parti pendant les mois vraiment qui ont précédé le génocide, des gens qui se faisaient tuer pour un oui ou pour un non parce que tel avait été tué, l'autre parti allait se venger chez d'autres. Mais personnellement, je suivais ça comme si on attendait à un moment donné que ça s'arrête et qu'en même temps on voyait que ça ne s'arrêtait pas. C'est le genre de situation sans précédent qu'on a vécu à cette époque-là et je n'avais pas de repère du tout vers quoi ça pouvait aboutir. Mais c'était de toute évidence comme si on était dans un cul de sac. Un cul de sac. Oui. Et puis le soir du 6 avril, j'étais à la maison avec les enfants et les domestiques comme d'habitude. Et puis j'entends un bruit bizarre. Et c'était l'avion qui venait d'être, comment on dit ça, d'être abattu. Oui. Personne ne devait sortir de chez lui. J'ai tout barricadé, j'ai même mis aux portes des sacs de ciment. Puis je me suis enfermée avec mes enfants et les domestiques dans le couloir. Sauf qu'à un moment donné, une voisine m'a téléphoné en me disant: Mais sais-tu que tu restes seule dans le quartier? Et là, d'un coup, tous les sacs de ciment par terre, j'ai ouvert la porte, j'ai couru avec ma fille dans le dos, un thermos de bouillie dans une main. Et mon garçon qui courait derrière moi, il était tout petit, c'était la première fois que je le voyais courir, mais c'est des instincts. Alors on a couru vers là où les autres couraient, puis de là, tout le calvaire, on a vécu à un moment donné dans des toilettes, et puis on a quitté Kigali, tant bien que mal, en passant plein de barrières, et puis plein de corps de morts.
Et à ce moment-là, comment réagissaient tes enfants?
Comment réagissaient mes enfants? Je suppose comme moi. Ils me faisaient confiance. Quand je leur disais on y va, ils y allaient. Quand je leur disais on se couche, ils se couchaient. Ils me suivaient, c'est sûr, ils s'assuraient de ne pas me perdre de vue, surtout.
As-tu une peur?
Est-ce que ça s'appelle la peur? Ouais, certainement. Mais je trouve le mot trop faible. À un moment donné, je me suis retrouvée à un tournant de la route et j'ai dû m'arrêter pour demander à des gens qui passaient quelle est la route qui menait chez moi. Parce que j'avais tout oublié. Juste l'envie de fuir, ou en tout cas la grande peur de la mort qui me poussait à agir, mais à ce moment-là, j'agissais comme une automate, il n'y avait rien dans ma tête. Rien. Rien, rien, rien. Je me souviens à une barrière, il y avait beaucoup de gens, mais il y avait un homme que j'étais sûre. C'était un visage familier, c'était sans doute à Boutaré que je l'avais connu. Et je veux dire connu, pas seulement pour dire bonjour, comment tu vas, mais vraiment connu. Mais il m'a été donné d'oublier ce visage et son nom. Mais je sais que ça s'est passé. Et un homme qui était vraiment menaçant, comme si on ne s'était jamais connu. Non, pire, comme si j'étais sa meilleure ennemie. Quand j'étais petite, j'entendais toujours aux nouvelles à la radio. À une époque, l'actualité internationale a été à un moment donné orientée vers la guerre au Cambodge, la guerre au Vietnam. Mais quand j'entendais à cette époque-là ces nouvelles, je me disais, ah, ces gens-là qui se battent, ces gens-là qui se tuent, c'est pas pour nous. Ça ne peut jamais arriver chez nous. Peut-être des gens qui viendraient avec des armes, mais nous, on n'a pas d'armes, on est dans un bon pays, il y a les bananeraies, et puis qui est-ce qui aurait la force de monter les montagnes pour aller chercher quoi d'ailleurs? Le temps qu'ils montraient, on l'aurait vu. Je ne me représentais pas ce scénario, ce genre de scénario de guerre au Rwanda, et encore moins de gens qui se tuent. avec les armes qu'ils utilisaient pour tuer. Et donc pour moi, ça ne rimait à rien. J'étais là dedans comme un observateur qui regarde un film inédit. Oui.
L'intensité de la violence du génocide et le danger de mort obligent alors Marie Goretti à quitter le Rwanda. Avec sa mère et ses deux enfants, elle fuit vers le Congo et se réfugie dans la ville de Goma.
À un moment donné, il y a eu interdiction des autorités congolaises s'adressant aux Rwandais réfugiés de rester dans la ville de Goma. C'est une décision politique parce que le Rwanda ne voulait pas des réfugiés aux portes du Rwanda, à la frontière, c'était trop risqué. Et c'est comme ça que je suis allée dans un camp de réfugiés. On a peur de rien perdre parce qu'au fond, on a plus grand-chose. C'est aussi une époque qui m'a beaucoup appris de la vie, de vivre à proximité avec... Beaucoup de gens dont on ne savait rien hier et qui aujourd'hui deviennent vos voisins. D'observer comment les gens vivent. Et puis, il n'y avait que des Rwandais qui avaient vu le génocide comme moi et qui venaient de partout, toutes catégories sociales confondues. Prenez un peu le Rwanda et déplacez-le, mais en enlevant tout ce qui est décor et puis en mixant le tout, et vous aurez le camp de réfugiés. On part de rien et puis surtout, on ne sait même pas où on va dans un camp de réfugiés. Tout le rythme de la vie qui est cassé, où on doit composer en fait avec les éléments présents. Être là et puis vivre et continuer à vivre sans pouvoir dire c'est quoi l'objectif à la fin. Mais tout compte fait, on vit seulement avec soi-même. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? J'aurais pu naître ailleurs, j'aurais pu mourir, j'aurais pu. Ça reste toujours un questionnement, ça c'est pour m'emmener où? Je me souviens très bien d'un moment où j'ai signé ce contrat avec moi-même. Oui, je me suis dit, mais d'avoir vécu tout ça, il faudrait que ça serve à quelque chose, quoi. C'est-à-dire, je ne considère pas que mon rôle dans l'histoire est fini. Et donc, du jour au lendemain, ce n'était plus vivable pour moi. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment et je suis partie. Venu à m'extraire de là et me voici ici libre. Je suis arrivée en Belgique en tant que réfugiée politique. L'exil, c'est d'abord la séparation d'avec les siens. Et donc ça a été très douloureux pour moi et puis pour ma mère et pour ma soeur, que les deux que je ne reverrai plus, en tout cas plus dans cette vie. Mais curieusement, je me suis toujours sentie bien partout où j'étais. Quand on a quitté notre maison à Kigali en 1994 et puis que nous avons commencé notre longue marche, il y avait une longue file de réfugiés qui marchaient à pied, des gens qui passaient avec des ballons de provisions noués dans un tissu sur la tête. La file était tellement longue que j'ai dû dire à un moment donné à ma mère, mais essayer de descendre et puis d'y aller à pied parce que comme ça a continué à bombarder derrière nous, si ça bombarde, on sera obligé d'abandonner les voitures. Ce n'est pas aussi important que notre vie. Je vais pouvoir vous retrouver. Et donc, ma mère est sortie et puis elle a fait aussi un ballon de provisions, des choses de première nécessité. Et puis, elle a mis sur sa tête. Et puis, Rémi, qui était encore très jeune, et il avait 4 ans à peine, il m'a dit, « Oh, maman, tu as vu les réfugiés ?» J'ai dit, « Oui, oui, oui. » Puis, quand ma mère a mis son ballon de provisions sur sa tête, Rémi a dit, « Ah, mais regarde si grand-mère, elle devient réfugiée aussi !» C'était amusant. Et puis je lui ai dit, mais toi aussi, sors derrière elle, toi aussi, tu es réfugiée. C'était amusant, le regard qu'à 3 ans, le regard qu'il avait sur les, qu'il portait sur les réfugiés, c'est des gens qui portaient des choses sur la tête. Et donc, Rémi, tout le temps, il ne cessait de me demander, mais maman, quand est-ce qu'on retournera dans notre maison? Je ne trouvais pas de réponse. Et puis, à force d'entendre la question, quand est-ce que nous retournerons chez nous, je lui ai dit, mais écoute, désormais, partout où nous serons, dis-toi que nous sommes chez nous. Puis, nous avons dormi dans la voiture et il a demandé, maman, est-ce qu'ici, on est chez nous aussi? J'ai dit, oui. Puis, un jour, nous avons dormi dans la salle de classe. Maman, est-ce que nous sommes chez nous? Oui. Et donc, depuis, ils ont intégré mes enfants que partout où nous sommes chez nous. Ici aussi, nous sommes chez nous. Mais en Belgique aussi, nous étions chez nous. Quand je suis arrivée en Belgique, je me souviens, la première chose qui m'a surprise, je suis allée visiter des grands monuments, et, comme la grande église qui est à Bruxelles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Sainte-Gudule. Oui, Sainte-Gudule. Et puis j'ai regardé toute la beauté de cette église. Quand tu vois des gens qui se mettent à construire un bâtiment, et ils savent bien que il faudra 300 ans pour la construire. Il faut vraiment qu'ils aient la capacité de se projeter au-delà de, même de leur vie présente, de se dire, mais ça, c'est le reflet d'une vision, et d'une vision pas seulement d'une personne, mais de plusieurs personnes qui ont vraiment envie de vivre et de multiplier la vie. Et ça, ce n'est pas présent au Rwanda. Ce n'était pas présent quand j'ai quitté le Rwanda. Ça a peut-être changé depuis. Mais ça manquait très fort. J'ai foi en la vie. Et j'ai envie de transmettre cette foi. Et je sais qu'il y a d'autres gens quelque part qui ont aussi foi en la vie. J'ai très envie de m'associer à des gens qui croient en la vie. J'ai envie de leur dire, allez-y, ne craignez rien, vous pouvez croire en la vie. C'est merveilleux de vivre. J'ai la foi en tout ce qui existe et même en tout ce qui n'existe pas encore. J'ai la foi en l'être humain. Tout le monde peut changer. Et puis, je travaille pour mon propre changement au quotidien. Moi aussi, j'apprends. Oui, je sais que tout est possible. Dans l'univers.
Qu'est-ce que tu penses de vivre en liberté?
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je crois que j'en ai toujours rêvé. J'en ai rêvé tellement fort que j'ai fini par y arriver.
C'était Marie Goretti Mukakalisa. Vivre en liberté.
C'est
Si c'est là, c'est ici. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis. Mixée par Olivier Ruten. Sur une musique de Daniel Stockard. Cette émission a été réalisée avec le soutien du service public fédéral du ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique.